Dangerous. Radio Kenny, la plus rebelle des radios. That boy you call is a diamond fella. All you little boys are coming in your parish. You fellow, but your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You mid summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your money, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting so your CD. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonjour, nous sommes le mercredi 21 novembre 2018 et c'est l'heure du Canu Info.
Et de quoi on va parler ce soir ?
Les riches sont en garde à vue.
Ensuite, on ira faire un tour du côté de Marseille puisqu'un bal masqué contre le mur de la plaine s'annonce.
Des migrants refusent de débarquer à Misrata, c'est en Libye.
Et un lien direct entre pénalisation des clients et la mort de Vanessa Campos.
Le TIDOR, la journée de commémoration des personnes trans assassinées, ça sera dans la foulée.
Et on finira ce Canu Info par trois scénarios envisagés par Emmanuel Macron pour ne pas sortir du nucléaire.
Les frais d'inscription à la fac ne vont pas augmenter, paraît-il. Je veux vous dire qu'il n'est ni dans les projets de la ministre de l'Enseignement supérieur, ni dans les projets du gouvernement de procéder à cette augmentation pour les étudiants français ou les étudiants européens, a déclaré Édouard Philippe aujourd'hui lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a ajouté « Il n'a jamais été question et il n'est pas question que les droits d'inscription soient augmentés pour l'ensemble des étudiants. » Alors, quand des ministres disent ce genre de trucs, moi, si j'étais étudiant, je commencerais déjà à faire des économies.
Toujours dans les brèves de merde, des nouveaux gadgets sécuritaires sur le marché. Donc, c'est une start-up genevoise qui a développé des détecteurs sonores capables d'alerter immédiatement les forces de l'ordre lors d'une collision, un coup de feu ou une explosion. Leur but, à terme, remplacer toutes les caméras de vidéosurveillance dans les villes pour pouvoir alerter beaucoup plus rapidement les forces de l'ordre. Oui, c'est super.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Qu'est-ce que c'est ?
Les malfaisants. On choisit un coin tranquille pour ne pas voir les sales gens. Ils viennent justement dans ce coin-là pour s'entretuer.
Et oui, les riches sont en garde à vue. Et donc, qui dit riche, on parle bien de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, qui a été arrêté lundi au Japon.
J'ai cru que tu parlais de moi.
Mais non, tu es ici. Avec tout ton argent, plein les poches, tu es dans ces studios.
Donc aujourd'hui, un tribunal de Tokyo a décidé son maintien en détention pendant 10 jours. Voilà, et Nissan donc l'accuse de malversation financière, c'est-à-dire d'avoir minimisé pendant des années ses revenus déclarés aux autorités japonaises. Eh bien, les pauvres se font arrêter pour vol et les riches pour malversation. Donc vous voyez, cet abus langagier, c'est clairement relié à notre appartenance de classe. Donc on pourrait simplement dire que Carlos Ghosn est un énorme voleur, comparé aux petits voleurs dont le Progrès relate souvent les faits. Ben, par exemple, le Progrès titrait le 2 novembre, Villeurbanne, le cambrioleur de 35 000 euros de recettes du Réveillon, a été condamné à 10 mois de prison avec maintien en détention. Donc ce qui est rien d'étonnant d'être maintenu en détention quand on vole une somme d'argent. Bref, ou la semaine dernière, France Bleu écrivait que le tribunal correctionnel d'Avignon a condamné à 4 mois de prison ferme un voleur de sous-vêtements. Donc c'était même pas d'argent. L'homme de 37 ans avait dérobé des boxers dans un magasin d'Avignon le jour où il achevait de purger une précédente peine déjà pour vol. L'homme a expliqué qu'il n'avait aucune ressource en sortant de prison. Mais bon, revenons à Carlos Ghosn. Aujourd'hui, le journal Le Point a titré, je cite donc, « Il faut rapatrier Carlos Ghosn. Le Japon doit nous rendre notre compatriote. » Ce citoyen, jusqu'ici à l'honorabilité parfaite, est détenu par les autorités japonaises. Donc cet article n'est malheureusement pas un canular, mais il est vraiment de mauvais goût. Je continue un peu. Il s'agit d'un symbole français qui mérite que nous lui apportions la plus grande protection. Voilà, jusqu'ici, là, je crois que tout est dit. Pour donc Mediapart, le 29 juin 2011, donc ça, c'est il y a déjà quasi une dizaine d'années, titrait Nissan rémunération record pour Carlos Ghosn. Le patron de Renault et de Nissan a annoncé une rémunération en hausse de 10% sur l'exercice écoulé, 8,4 millions d'euros pour son seul poste japonais. Voilà, donc... Si un mec aussi riche vole, il ne vole pas 10 000 euros dans l'appartement de sa voisine. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, la logique serait la suivante. Plus on est riche, plus on vole beaucoup, moins on risque de tôle. Plus on est pauvre, plus on est prêt à voler trois fois rien. Et plus les mois de tôle ferme tombent. Bon, on le sait tous, ça. Pourtant, pourquoi je le répète aujourd'hui, c'est que les médias mainstream passent beaucoup de temps à peser leurs mots dans cette histoire de Carlos Ghosn et à minimiser le vol de fric d'un mec qui n'en a pas besoin pour vivre. Ils sont outrés que le procès soit à charge, mais toutes les accusations sont à charge aussi en France. Et donc, la cerise sur le gâteau de cette histoire, c'est qu'il a été remplacé hier à titre provisoire par Thierry Bolloré. Thierry Bolloré qui rappelle indéniablement un autre grand nom industriel français, Vincent Bolloré, le mania de l'audiovisuel. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vraiment de lire la BD « Riche, pourquoi pas toi ?», qui est une enquête fiction humoristique sur l'argent et les riches, pour nous rappeler que l'on vit dans un monde où les classes sociales sont bien réelles et tenaces.
Oui, oh, je sais bien. On a faim, on devrait dire j'ai faim, puis ça devrait s'arranger seulement. On ferme sa gueule, l'orgueil. C'est de l'orgueil, moi, hein. C'est marrant, ça.
Marseille, maintenant, on va tous à Marseille sur le Vieux-Port, et on y va samedi 24 novembre à 16h. Alors Marseille, c'est vrai que ces derniers temps, Marseille, c'est une ville où il se passe sacrément des trucs moches, des trucs beaux, des trucs enthousiasmants, des trucs terribles, des trucs sanglants aussi. Marseille, c'est à la fois cette ville où du côté du quartier de Noailles, des immeubles se sont effondrés il y a une quinzaine de jours, faisant une huitaine de morts, il me semble. Et à la fois cette ville où, alors c'est aussi la ville dans laquelle en 2013 en particulier, il y a eu une énorme campagne de réurbanisation du centre-ville, qui était un centre-ville, ma foi, relativement populaire. Et à l'occasion d'une histoire de Marseille, capitale de la culture, ce centre-ville a été complètement démoli et reconstruit sous forme d'immeubles chers, très chers. Ça a été un des moments de l'urbanisation récente de Marseille. Et un peu dans la foulée de tout ça, sous la houlette du maire Jean-Claude Gaudin, et en l'occurrence d'un maire du maire d'arrondissement Gérard Chenot, en ce moment, il y a cette fameuse histoire de la Plaine. La Plaine, c'est aussi un quartier de Marseille. C'est un quartier sur lequel il y a une place, la place Jean Jaurès, qui était une place, ma foi, ouais, ça pouvait ressembler un peu à la Croix-Rousse, d'une manière. Une place plutôt populaire, avec... Avec un peu des je sais pas comment dire, c'est un endroit un peu populaire, un peu de gauche, un peu sympatoche. Et sur cette place en particulier, il y avait à la fois des endroits où on pouvait s'asseoir facilement sur des sortes de gros gradins en béton. Il y avait un jardin d'enfants avec plein de gamins qui venaient jouer, plein de mères qui amenaient leurs gamins. Il y avait un marché aussi qui était un marché hyper populaire, hyper sympatoche. Et puis la mairie a décidé que tout ça devait changer et qu'il fallait requalifier le quartier. Qu'il fallait dégager tous ces gens, ma foi, les dégager gentiment, mais enfin quand même fermement, et puis remplacer ça par une place qui sera plutôt ultra commerciale, où quand on voudra s'asseoir, de toute façon, ça sera une terrasse de bar où il faudra payer des consos, où il y aura des tonnes de caméras de vidéosurveillance et toutes sortes de réjouissances. Il s'avère que les gens de la Plaine ont été vraiment pas très contents de cette histoire. Et ma foi, on commençait à L'ont déjà dit et redit lors de différentes sortes de consultations. Et puis après, on commençait à être un peu nuisible pour le chantier, au point que la mairie, qui avait dans un premier temps promis que les arbres de la place seraient déracinés et replantés ailleurs, a décidé à un moment, semble-t-il, dans une sorte de but de montrer que maintenant ça suffit les conneries, a décidé de les tronçonner. Et alors ça a hyper énervé des gens qui jusque-là, ma foi, regardaient le truc un peu de loin en n'étant peut-être pas très contents, mais en se disant que bon, eux, de toute façon, ils n'allaient rien décider. À partir de ce moment-là, il y a eu manifestations et toutes sortes d'actions contre le début de chantier. Au point que la Soleam, qui est la société qui s'occupe du chantier, dont le président est par ailleurs aussi adjoint au maire de Marseille, la Soleam a finalement décidé de construire ce fameux mur, le mur de la plaine, qui en réalité n'est pas complètement un mur, qui est une suite d'énormes plots de béton qui font 3 tonnes chacun, hein, et il y en a 1000 tonnes en tout, ça veut dire qu'il y a 300 plots de béton qui font le tour de la place, et qui sont des machins, c'est ça, qui font 3 tonnes, qui font 2,50 m ou 3 mètres de haut, qui empêchent vraiment de voir ce qui se passe à l'intérieur, et le chantier a lieu derrière ce mur de protection. Il faut quand même comprendre que le mur de protection a coûté un demi-million d'euros. Oui, c'est ce qu'a coûté juste le mur de protection, pas le chantier, le mur de protection. Ça, c'est de la thune qui est déboursée par la mairie de Marseille, la même mairie qui, bien sûr, pendant ce temps, n'a pas un centime pour rénover les immeubles qui s'écroulent du côté de Noailles.
Et juste, petite précision que je voulais faire par rapport à ton début où tu disais que c'est l'embourgeoisement là, du centre-ville de Marseille a commencé après Marseille, capitale européenne de la culture.
Avant, en
ouais,
préparation
c'est ça.
De...
C'est qu'elle était en embourgeoisement et notamment beaucoup de pauvres s'étaient déjà fait virer du centre-ville bien avant et que Marseille, capitale européenne de la culture, ça a été un processus qui a contribué à accélérer l'embourgeoisement du centre-ville, mais c'était déjà en cours.
Tout à fait. D'autant plus que c'est la préparation de Marseille, capitale de la culture, qui a été l'occasion d'une sorte d'urbanisation, mais vraiment en forme de guerre, quoi, de guerre urbaine. Mais bon, de toute façon, c'était une étape un peu plus forte dans un processus qui était en cours, ça c'est sûr. Mais alors voilà, on en est à ce mur de béton. Et alors quand même, du coup, ça n'a pas empêché des manifestations, d'autres manifestations. Le mur de béton, bah, quand même, finalement, des gens ont réussi à venir une nuit et puis à péter plusieurs de ces plots de béton, à les faire tomber, les plots de 3 tonnes, puis à les péter. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont un peu vénères. Suite aussi à l'effondrement de ces immeubles à Noailles, parce que tout ça est finalement, comme nous dit le tract qui appelle à la manif de samedi, tout ça c'est le mur de la plaine et les morts de Noailles, si différents, forment les deux facettes d'une même logique vorace et mortifère menée par les mêmes rapaces. Et il précise, façonner un centre-ville aseptisé, franchisé et nettoyé de ses pauvres, de ses immigrés, en édifiant des murs et en laissant les autres s'effondrer. D'un côté, on fait des murs pour faire une place qui va ressembler à une place d'ultra-consommation. D'un autre côté, les immeubles où les pauvres habitent, on les laisse s'effondrer et tuer. L'effondrement n'est absolument pas une négligence. Résultat d'une stratégie de pourrissement cynique mûrement réfléchie, les morts de Noailles sont déjà ouvertement utilisés au pied des décombres pour dégager tout le secteur, comme l'a dit lui-même le maire Jean-Claude Gaudin. C'est-à-dire que non seulement les immeubles s'effondrent et les gens qui sont dedans sont morts, non seulement les immeubles d'à côté qui ne sont pas encore effondrés sont de toute façon de plus en plus invivables et c'est bien l'idée que les gens puissent que les gens finissent par se barrer d'ici là, par se barrer parce que les immeubles sont invivables, mais là c'est même Jean-Claude Gaudin qui, une fois que les immeubles se sont effondrés, va en profiter pour forcer les gens qui sont pas partis, les gens qui restent parce que de toute façon ils ont tellement peu de thunes qu'ils préfèrent habiter dans un toit qui lui-même est un peu branlant plutôt que vivre dehors, pour les forcer eux à dégager. C'est ça Marseille, c'est ça l'urbanisme de Marseille. Et c'est donc en même temps ce chantier de la plaine contre lequel les gens sont de plus en plus énervés. Il y a déjà eu une manif il y a 15 jours. Une manif un mercredi soir devant la mairie qui a été une grosse manif bien, bien, bien vénère avec vraiment des mots d'ordre pour faire dégager Gaudin. Et donc là, cette fois-ci, samedi prochain, Alors, gros appel à cette manifestation, c'est à la manifestation de samedi prochain, a priori. Si vous qui m'écoutez à Lyon, vous y allez, vous ne serez pas les seuls à ne pas être Marseillais. Ça a quand même vraiment l'air d'être une sorte d'appel extrêmement large pour aller, ma foi, défendre le quartier de la Plaine et faire tomber la mairie de Marseille.
Hop là, le micro. Et le 8 novembre, une embarcation avec presque une centaine de migrants est secourue par un bateau commercial au large de la Libye. L'ordre est donné au navire de débarquer les migrants à Misrata. Misrata, c'est une ville côtière libyenne. À partir de là, les personnes secourues refusent de quitter le bateau. Il est hors de question pour eux de mettre un pied en Libye. Des ONG tentent de négocier avec le gouvernement libyen pour un débarquement en douceur et sans que personne ne soit conduit en centre de détention. Vous imaginez bien que ces négociations ont reçu lettre morte du côté du gouvernement. Pendant plusieurs jours, des ONG font des allers-retours entre la Libye et le bateau, le Nivin, ou le Nivin, je ne sais pas, situé au large des côtes de Misrata. Ils y apportent vives et premiers secours, parce que les gens commencent à avoir sérieusement la dalle, parce que le bateau n'était pas équipé pour recevoir... vous voyez une centaine de personnes, mais juste ils ont vu une embarcation en détresse et comme le code maritime l'oblige et en général l'humanité des gens à bord des bateaux fait que et ben du coup ils portent secours. Voilà, là les gens ont vraiment pour vraiment il était hors de question de mettre les pieds en Libye. Alors, d'après Infomigrant, le site internet où on pompe pas mal d'infos, des humanitaires présents à Misrata ont vu débouler, à toute allure des ambulances suivies par des véhicules avec des hommes armés. Et ça s'est passé hier. Plusieurs ONG qui ravitaillaient le bateau ont tenté de s'approcher pour voir ce qu'il se passait, mais ont été tenus à l'écart par les autorités. Infomigrant, toujours a tenté de joindre un contact qu'il avait à bord, mais c'est une personne qui s'est présentée comme étant un garde-côte libyen qui a répondu et qui a dit, je cite, « Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a plus personne dans le bateau et que les migrants sont dans de bonnes conditions ». Alors, qu'il n'y ait plus personne dans le bateau, ça, on veut bien les croire. Pour la deuxième partie de la déclaration, on a plus de mal, voire c'est sûr qu'il ment. Sauf que les ambulances et les témoignages parlent de de situations tendues et des flics qui ont utilisé gaz lacrymogène et flashball. Pour le reste, c'est encore flou, mais on sait qu'ils sont accusés par la justice libyenne de piraterie. Et en général, oui c'est ça, tu fais les gros yeux, en général c'est quand même pas des peines qui sont légères derrière, hein, parce que piraterie, on oublie un peu l'histoire des pirates qu'on aime bien raconter.
Alors attends, parce que ta phrase n'était pas hyper claire, c'est les migrants qui sont accusés de piraterie.
Oui, c'est les migrants qui sont accusés de piraterie. Voilà, donc ils ont, quand ils disaient qu'ils étaient dans de bonnes conditions, ils sont de fait forcément en centre de détention, à l'hôpital pour les blessés qui très vraisemblablement ont dû avoir lieu pendant l'opération et qui finiront par la suite en prison. Voilà, on connaît la situation des migrants et des prisons libyennes, c'est trash et glauque pour les migrants, pour les minorités là-bas. Voilà, c'était logique que ces personnes-là refusent de débarquer en Libye. En attendant, on a quand même un président qui, de son côté, tente toujours de négocier un peu avec la Libye pour traiter le flux migratoire.
Et on va continuer de parler de morts et de flics. On a parlé pas mal de fois de Vanessa Campos ces dernières semaines, mois, à Radio Canu et dans plein d'autres médias, puisque c'est une femme travailleuse du sexe qui a été assassinée cet été dans le bois de Boulogne. Et en fait, l'enquête sur son assassinat se poursuit. Et l'information concernant l'arme du crime se précise. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est qu'il a fallu une mobilisation pour que l'enquête policière et judiciaire avance correctement. Donc, nous savions que cette arme appartenait à un client qui avait été volé quelques semaines plus tôt dans le même bois de Boulogne. Parce qu'il y a des bandes organisées qui passent, qui dépouillent et les clients et les travailleurs du sexe. Il apparaît à présent que ce sont en fait deux policiers qui ont été volés. Et que deux armes étaient en circulation auprès de la bande comme étant les agressions en série. Quand on précise que ce sont des armes de policiers qui sont volées, ça permet de savoir qu'eux, ils sont obligés de faire des déclarations. Et donc, qu'eux, ils savent qu'il y a des armes à feu qui sont en liberté, qui circulent auprès de gens. Sauf que ça a été caché par les policiers. Pourquoi ça a été caché? Parce qu'il y en a un qui a bien dû admettre qu'il se rendrait au bois de Boulogne pour avoir des relations tarifées, alors qu'il y avait une arme à feu en jeu, quoi. Il a préféré mentir et le deuxième a également menti et continue à déclarer qu'il a été volé avant, du moins qu'il ne s'est jamais rendu pour des relations tarifées au bois de Boulogne. En tout cas, ça fait un vol d'armes à des flics en civil allant se faire sucer la bite, qui ensuite sert à tuer une travailleuse du sexe. Sachant que les travailleuses du sexe ont à maintes reprises alerté les autorités en disant « il y a des bandes qui nous attaquent et qui attaquent les clients ». Donc si des flics ils sont fait attaquer, ils savaient qu'il y avait ces bandes-là et ils savaient qu'ils avaient donc des armes à feu, puisque maintenant les flics... ont le droit en civil de porter leurs armes et n'ont rien fait. Donc il y a quand même un truc de responsabilité beaucoup plus forte de la part de la police, d'une manière pas directe mais détournée, sur l'assassinat de Vanessa Campos. Également, donc vraiment, moi j'insiste sur cette histoire de circulation d'armes à feu depuis ce changement de la loi où les flics en civil peuvent avoir leurs armes. Et l'autre chose, donc c'est la loi de pénalisation des clients, c'est-à-dire que c'est une loi qui était passée pour donc pénaliser les clients des travailleuses du sexe. Et ce qu'on voit, dont on a déjà parlé, mais ce qu'on voit clairement de ce que ça fait, c'est que là, en tout cas, Vanessa Campos, elle exerçait au moment de sa mort à un endroit pas éclairé du bois de Boulogne. Parce qu'en fait, comme maintenant les clients, ils peuvent être arrêtés par les flics, ils demandent aux travailleurs du sexe d'aller dans des endroits sombres. Et donc, ce qui permet à ces clients d'être attaqués par des bandes et d'être dépouillés. Mais ce qui est le plus grave, occasionne des conditions de travail vraiment merdiques pour les travailleuses du sexe qui se retrouvent isolées. Et donc, si elles tombent sur des clients qui les tabassent, bah, c'est beaucoup plus dur d'arriver à une défense collective et qu'il y ait d'autres personnes qui les soutiennent. Et donc, c'est ce qui s'est malheureusement passé cet été pour Vanessa Campos, c'est que son client s'est fait attaquer, qu'elle a essayé de le défendre. Et que voilà, elle s'est fait tuer. Voilà. Voilà le début de la chanson Conquest Hall de Bambix, un groupe sacrément féministe, pour penser à Vanessa Campos. Et hier, c'était la journée de commémoration des personnes trans assassinées, donc le TIDOR. C'est chaque année, le 20 novembre. C'est la déclinaison française de Transgender Day of Remembrance. Et cette journée vise à commémorer donc la mémoire des personnes trans assassinées pour motif transphobe. Et à Lyon, le centre LGBTI, en partenariat avec Chrysalide Asso et le Jardin d'été, a proposé cette année 4 jours pour donc la commémoration des victimes, mais aussi pour sensibiliser à la transphobie. Parce que ce qui amène des gens à assassiner des personnes trans, souvent, c'est de la méconnaissance et un sentiment de s'être fait tromper. Donc plus les personnes elles seront au courant de ce que sont des personnes trans, et ben en tout cas il y aura plus, on espère, de tolérance et d'acceptation, hein. Je veux dire, on veut pas juste de la tolérance, on veut juste exister. Mais voilà, donc samedi 17, il y avait une déambulation qui était organisée pour renommer les rues et poser de nouvelles plaques avec des nouveaux noms à Lyon. Et à Grenoble, hier, c'était un rassemblement qui avait lieu par, qui a été organisé par l'assaut Rita.
C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire.
Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi.
Ah ben voilà un de sacrément pas féministe.
C'est clair. Alors je vais parler de nucléaire un petit peu maintenant, mais je vais commencer, avant d'arriver à l'info vraiment importante, je vais commencer par l'anecdote, ma foi, qui vaut quand même un petit peu le détour. La cour d'appel de Colmar a confirmé aujourd'hui la condamnation de EDF à 7000 euros d'amende pour sa, ma foi, mauvaise gestion d'une fuite d'eau. C'était en 2015 dans la centrale nucléaire de, tiens, c'est laquelle qui a les tuyaux les plus pourris, et ben c'est la plus vieille.
La salle du budget.
Non, Fessenheim.
Ah, Fessenheim, j'hésitais entre les deux, j'avoue.
Alors, en première instance, le tribunal de police de Guebwiller avait déjà reconnu EDF coupable d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales du Code de l'environnement. L'ex-EDF avait aussi été condamné pour ne pas avoir mis en œuvre les actions curatives, préventives et correctives appropriées, bref, avoir fait n'importe quoi, après l'incident de 2015. Alors, qu'est-ce qui s'était passé précisément? Le 28 février 2015, il y avait une canalisation qui avait pété. Alors, du côté non nucléaire, hein, l'eau qui s'était répandue était de l'eau qui n'était pas radioactive, mais enfin, il y en avait quand même eu 100 mètres cubes qui avaient inondé la salle des machines, qui avaient conduit la direction à arrêter d'urgence le réacteur numéro 1. Bon, c'est ça la centrale que EDF aimerait tellement encore prolonger de 10 ans. C'est là qu'elle en est. Et l'EDF avait parlé, pas du tout de fuite massive, mais de défaut d'étanchéité, tu m'étonnes, 100 mètres cubes. La direction avait à ce moment-là fait des réparations. Mais 5 jours plus tard, au moment où des gens de l'ASN venaient voir ce qu'il en était de ce défaut d'étanchéité, sous leurs yeux, la conduite avait pété à nouveau à 1 mètre de la rupture précédente. Alors l'ASN avait quand même dit que cette fois-ci c'était vraiment un petit peu exagéré de la part d'EDF. Ils avaient fait les gros yeux. Voilà, bon, alors aujourd'hui le tribunal a donc confirmé les 7000 euros d'amende et en outre EDF devra verser 2500 euros d'amende à chacune des 5 associations antinucléaires qui avaient saisi la justice en première instance.
Ah bah non, on a fini.
Non, bah, oui, ça c'était la petite histoire, mais maintenant on en arrive à l'info quand même nettement plus importante, puisqu'il s'agit du PPE, et le PPE, qu'est-ce que c'est? C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est ce qui va déterminer les grands choix gouvernementaux pour la production d'énergie en France entre maintenant et 2028. Alors, figurez-vous que c'est Emmanuel Macron himself qui devrait annoncer la semaine prochaine, mardi prochain théoriquement, son arbitrage sur tout ça. Et en particulier, le sujet sur lequel il y a tension, c'est le nucléaire. Alors ce PPE, il faut savoir que c'est un truc qui de toute façon est un peu problématique pour Macron, qui a déjà pris du retard. Il devait déjà annoncer tout ça en juillet, et puis finalement il a laissé tomber pour juillet, et puis entre temps Nicolas Hulot s'est barré en claquant la porte, et puis François Drugy est arrivé, et puis Macron se rappelle qu'il avait eu une première promesse qui avait été faite par le gouvernement précédent, mais que lui-même avait aussi repris cette promesse à son compte pendant la campagne électorale, qui était la fameuse histoire de 50%, pas plus, de ramener à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en France d'ici 2025. Et ça, du coup, Macron, candidat, avait dit qu'il comptait faire ça. Et puis il arrive à la présidence, et puis il se dégote un ministre génial, puisque c'est un ministre que tout le monde adore et en qui tout le monde a une énorme confiance sur l'écologie, Nicolas Hulot. Et donc il envoie Nicolas Hulot devant les caméras pour dire « En fait, cette histoire de 50% d'ici 2025, ça va être chaud, on va jamais y arriver. On n'a qu'à dire que ça serait plutôt pour 2030 ou 2035. » C'était une des choses auxquelles pouvait servir Nicolas Hulot quand il était ministre. Bon alors, aujourd'hui, donc on sait que dans une semaine, Macron doit dire quelque chose, et on sait que en attendant, lui et le reste du gouvernement sont en train de réfléchir à trois scénarios possibles. Alors le premier scénario, c'est celui qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique, François Drugy. Celui-là prévoit la fermeture de 6 réacteurs d'ici 2028. En plus des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, qui ceux-là ont l'air d'être cette fois-ci quand même sérieusement... Pour le coup, on a l'impression qu'ils vont vraiment le faire, de fermer les deux réacteurs de Fessenheim. Mais donc là, on en fermerait 6 de plus d'ici 2028, bon c'est dans 10 ans quand même. C'est-à-dire que toutes ces centrales, bien sûr, pour toutes les centrales dont on parle, pour la plupart, ont été construites il y a entre 35 et 40 ans, pour une durée théoriquement de 30 ans. Et donc là, on parle de ne pas les fermer avant encore 10 ans. Je vais y arriver. 6 fermetures d'ici 2028, en plus des 2 de Fessenheim, et encore 6 d'ici 2035. Donc ça en fait 12 et 2, 14 sur les 58 que compte le parc nucléaire actuel d'EDF en France. Et donc, avec ce scénario, on arrive à effectivement 50% d'électricité nucléaire, mais en 2035, donc la pire des possibilités qui avait été envisagée par Nicolas Hulot. Mais il y en aurait quand même déjà 40% d'électricité renouvelable à partir de 2030. Aujourd'hui, c'est juste 17,6%. C'est des chiffres, mais ça vaut quand même un peu le coup d'essayer de les capter. Donc ça, c'est une première manière de ne pas sortir du nucléaire. Ça reste quand même la meilleure dans les trois scénarios qui sont envisagés aujourd'hui. Les deux autres, vous allez voir, sont encore pires. Donc, à l'opposé, le pire des pires scénarios, c'est celui qui est soutenu par le ministère des Finances. Alors, celui-là, très favorable à la direction d'EDF, celui-là, c'est aucune fermeture supplémentaire de réacteurs d'ici 2028. Ça, c'est vraiment ce que EDF veut. C'est-à-dire garder toutes ces centrales en marche. Et seulement 9 fermetures entre 2028 et 2035. Pour le coup, l'histoire des 50% de nucléaire dans la production d'énergie, ça, il faudra attendre 2040. Et dans ce scénario, il y a aussi quand même malgré tout la construction de 4 nouveaux réacteurs en plus de l'EPR de Flamanville. Donc 4 réacteurs en plus d'ici 2040. L'EPR de Flamanville, si un jour il finit par être en marche, hein, mais bon, ce que personne ne souhaite, hein, qu'on soit bien clair. Moi, je trouve même qu'on est prêt à dépenser encore quelques milliards s'il faut pour ne pas qu'il soit jamais construit. Et voilà. Et entre les deux, il y a le scénario intermédiaire. Alors celui-là, c'est aucune fermeture supplémentaire d'ici 2028, mais 12 entre 2028 et 2035. Et voilà. Alors, à l'époque de Nicolas Hulot, il avait quand même prévu 2 scénarios possibles, et c'était quand même un petit peu autre chose. Un des scénarios prévoyait de ramener la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% en 2035, et on en restait là, mais ça, c'était à l'époque, c'était le pire des scénarios, donc qui correspond aujourd'hui au meilleur. L'autre laissait la possibilité d'être quand même plus ambitieux, d'avancer l'échéance, à condition, dans l'esprit de Nicolas Hulot, de démontrer que c'était faisable de développer fortement le stockage d'énergie solaire et éolienne. Ce qui là est un problème un peu sur l'éolien et le solaire, c'est que quand il y a du soleil et quand il y a du vent, c'est cool. Quand il n'y en a pas, il n'y a pas d'énergie. Et donc, stocker l'énergie, c'est de toute façon un truc qui n'est pas très très simple technologiquement. Et il fallait aussi arriver à faire, et ça c'était un axe un peu important pour Nicolas Hulot, à faire baisser massivement la consommation d'énergie. Et ça voulait dire, entre autres, mais en particulier visiblement dans l'esprit de Nicolas Hulot, la rénovation thermique des logements. C'est-à-dire que globalement, les logements, mais qu'il y ait des aides de l'État, qu'il y ait vraiment une politique qui aille dans ce sens pour que, y compris les plus pauvres, ou peut-être même en particulier les plus pauvres, qui quand même bien souvent sont logés dans des appartements qui, en matière de garder la chaleur, sont juste des passoires, qui est une aide pour ne serait-ce que pour une meilleure isolation. Et ça, pour le coup, c'était aussi une manière de faire en sorte. Alors, pour le coup, en termes de dans les choses qui tiennent à cœur, soi-disant du gouvernement, en tout cas de ses discours, l'histoire de pouvoir d'achat, et bah, bien sûr que si effectivement on arrivait à isoler les logements des gens qui n'ont pas beaucoup de thunes, ça c'est clair que ça ferait des économies, et pour le coup, des économies qui seraient vraiment des économies écologiques en plus. Bon, aujourd'hui, il n'est plus du tout question de ça. Alors, on ne sait pas encore lequel de ces scénarios sera choisi. On sait d'un côté que François de Rugy, à l'époque où il était candidat à la primaire de la gauche, hein, en 2017, il voulait une sortie du nucléaire une sortie complète du nucléaire en 2040. Hein, attention, à cette époque-là, il ne rigolait pas. Bon, voilà, on sait que historiquement, c'est un anti-nucléaire. De toute façon, il vient de chez les Verts. Après, on sait que c'est François de Rugy, c'est-à-dire quand même le plus grand tourneur de veste que compte ce gouvernement, je crois. Hein. On n'a pas d'autres challengers ?
Non, bah, ça doit être. Valls s'est retiré.
Et ben voilà. Alors, il avait aussi dit ce n'est plus EDF qui fait la politique de l'énergie en France. Il a dit ça en juillet dernier. Hein. Il n'était pas encore ministre. Mais il était déjà à La République En Marche. Et il dit aussi qu'il ne voit pas comment on pourrait décider aujourd'hui de commander de nouveaux EPR, soulignant que cette technologie n'a pas encore démontré sa fiabilité, sa sécurité et sa compétitivité. Ce qui, alors effectivement, merci Einstein, c'est clair que l'EPR, ça n'a pas l'air d'être tip-top. Voilà, alors on ne sait pas entièrement, effectivement, dans quelle mesure le fait de ne plus avoir à mettre sur le devant de la scène un ministre où la confiance est acquise dès le départ par les gens qui vont le voir sur son grand écologisme, dans quelle mesure ça va faire que le gouvernement va peut-être quand même faire un petit quelque chose dans cette direction de sortie du nucléaire.
Et pour ajouter un dernier élément sur l'hostilité au nucléaire, c'est que là, bah, tu parles beaucoup de chiffres, tu parles de les autorités sont donc allées, ont donc réparé, etc. Mais qui travaille dans les centrales, ben c'est des personnes qui choisissent pas forcément de travailler là-bas. En tout cas, les personnes qui vont vraiment réparer à l'intérieur, parce que les autorités disent oui, il y a une fuite, mais qui est-ce qui va la réparer ? C'est pas l'autorité en question. Et donc, c'est des conditions de travail vraiment pour l'intérieur de la réparation vraiment trash. Donc, on a pas envie d'encourager à ce qu'elle soit réparée ni qu'elle continue de fonctionner. Il faudrait juste qu'elle s'arrête et que les gens qui travaillent là-dedans puissent avoir l'espace de faire d'autres tafs. Voilà.
Mesdames, messieurs et les autres, la suite.
Et la suite, ça va surtout être la suite des programmes.
Et la suite des programmes, c'est Idées Noires.
Mais c'est seulement dans 18 minutes.
Bravo pour le calcul mental.
Et surtout que Idées Noires commenceront avec un agenda que vous pourrez écouter attentivement puisque nous n'en avons pas préparé.
Dans un premier temps, quand même, même si on n'a pas l'agenda sur nous, rendez-vous sur le Vieux-Port samedi prochain à 16h.
C'est un peu loin quand même. T'as pas un rendez-vous plus près là ?
Non. Et sinon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
pour un nouveau Canu Info avec nous-mêmes. Et puis, on vous donne rendez-vous dès demain et tous les autres soirs de semaine pour des Canu Info avec d'autres obscures équipes de Canu Info.
Et si vous n'êtes encore pas allé voir, découvrir le site rutilant et récent, le joli site internet de Radio Canu, où vous pouvez bien évidemment écouter en podcast les Canu Info.
En tout cas, merci de nous avoir écoutés.
À la semaine prochaine.
Bonne soirée. Ces salauds de gens, ils me défendent.